Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une spéciale western. Et oui, on aime bien les cow-boys, la culture prohibée. Donc on va vous parler de Un pistolet pour Ringo de Duccio Tessari. Et puis, du dernier jour de la colère de Tonino Valéry. Alors ça, c'est disponible chez Artus Film. Et puis, on va rester en compagnie de Tonino Valéry pour aborder un inédit. Alors là, on est dans le domaine de l'exclusivité mondiale. C'est jamais sorti dans quasiment aucun pays. Il y avait une VHS américaine il y a longtemps, dont une vieille copie circule sur le net. De manière inexplicable, le film n'avait jamais été diffusé. Alors que c'est signé par un grand du western italien, Tonino Valéry. Je veux bien sûr vous parler de son tout premier film. Jamais édité donc sur aucun support, il me semble, en Europe. Donc c'est un événement auquel nous convie Frénésie Édition. Et ce premier film de l'ami Tonino Valéry, c'est L'Anki, l'homme à la carabine. Donc on parlera de L'Anki, l'homme à la carabine. Et puis on abordera également le plus récent, Les Colons. Alors Les Colons, c'est signé Felipe Galvez à Berlay. Ça, c'est sorti chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Kevin Boissezon, Laurent Derain, Benjamin Fay, Stéphane Lacombe et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. À mes côtés pour causer cowboy. Notre cow-boy à nous, voilà, l'ami Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui aiment le sable et les armes à feu et qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien, et bien évidemment, bonjour à toutes les cowgirls qui nous écoutent.
Les amis, je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. Alors, je sais, je vous agace, mais c'est pas grave, j'assume. Après tout, l'émission, c'est moi qui l'écris, alors je fais ce que je veux dans mon émission. Voilà, je vais vous parler de ma rencontre avec Tonino Valéry. En fait, Tonino Valéry, assistant de Sergio Leone sur les deux premiers opus de la trilogie du dollar. Leone disait d'ailleurs que c'était son meilleur élève, comme le rappelle Jean-François Giray dans les bonus de ce L'Anki, l'homme à la carabine. Tonino Valéry, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, de longuement l'interviewer, puisqu'il était venu au Festival international du film Damien, qu'on appelait FIFA à l'époque, qu'on appelle FIFA maintenant sans doute pour pas qu'il y ait de confusion avec, si vous voyez ce que je veux dire, une association à but non lucratif qui promotionne le football, voilà. Donc c'était en 2011. Bon, il est plus de ce monde aujourd'hui, Tonino Valéry, mais on avait passé un très bon moment en compagnie de cet homme charmant et on avait pu échanger au sujet de L'Anki, l'homme à la carabine. À l'époque, je n'avais pas vu. Je finirais par voir une copie d'une VHS américaine, celle qui circule encore sur le net. Et puis à un moment, je verrai une copie dans une autre langue, je me rappelle. Enfin, mais jamais je le verrai, par exemple, en français. Alors que le film est quand même sorti en France et inexplicablement, il a disparu de la circulation. C'est assez étonnant, vu la carrière de Tonino Valéry. Alors, à l'époque, je lui demandais donc qu'il me parle de L'Anquille en mal à carabine. Et voici ce que m'avait déclaré à l'époque Tonino Valéry. L'Anquille est né d'une blague. Un jour, entre amis de la profession, et alors que le western européen n'en était qu'à ses prémices, nous discutions d'un improbable scénario. Je leur disais, je verrais bien un western centré autour d'un chasseur de primes. Pas un chasseur de primes classique, non. Un chasseur immoral et uniquement mu par l'appât du gain. Du genre, ce gringo à $500, je m'en fiche. Celui à $1000, bof. Celui à $10,000, ok. Je le voyais déjà devant toutes ces affiches portant la mention « Wanted », je bavais. Et puis, un an s'écoule, je décroche un poste d'assistant réalisateur pour un film espagnol produit par un Italien. Le réalisateur espagnol voulait imposer sa maîtresse de 40 ans dans le rôle féminin principal, alors que le producteur avait engagé une jeunette de 19 ans très belle. Alors, évidemment, là, il me parle à moi. Ne riez pas. Franchement, la femme de 40 ans était aussi très belle. La prise de bec entre le réalisateur et le producteur dura un mois, puis l'Italien vira l'Espagnol. Nous étions un jeudi, je m'en souviens très bien, et à peine le producteur avait-il viré le metteur en scène qu'il vint me trouver pour me dire « Alors Tonino, tu veux toujours réaliser un film ?» Je lui répondis par l'affirmative et il me dit alors « Tonino, nous sommes jeudi. Tu me dis que tu veux réaliser ton premier film. Eh bien rendez-vous mardi matin à Rome avec un scénario. » 4 jours. J'avais 4 jours pour lui faire un scénario. J'ai alors engagé pour 4 jours une magnifique sténodactylo, une très belle jeune femme, vraiment très belle, et en une journée, elle recopia ce script de chasseur de primes iconoclaste. Les 3 autres jours furent du pur bonheur. Alors évidemment, ces Italiens, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous faire croire qu'ils sont des tombeurs. Le mardi matin, script en main, je me rends à Rome, il est accepté et je m'apprête à démarrer la pré-production. Nous engageons alors un acteur américain qui ressemble un peu à James Dean. Celui-ci se prénommait Robert, mais je ne me rappelle plus de son nom. Alors je crois que là, en fait, il est assez diplomate. Il veut pas nous dire son nom, en vérité. Le premier jour de tournage, voilà l'acteur qui débarque. Seul problème, il est menotté et serré de près par 2 carabiniers. Je leur dis « Rendez-moi ma vedette !» Et les 2 policiers me répondent « C'est impossible, nous l'emmenons dans un asile psychiatrique pour un internement d'un mois. » Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'avion qui l'a amené ici, il a menacé le pilote et l'équipage sous l'effet de la drogue, certainement du LSD. J'étais dans de beaux draps. Heureusement, à cette époque, une série italienne nommée Aventure en hélicoptère, Aventure en hélico, je crois en France, remportait un franc succès. Et l'interprète de son héros, Craig Hill, était d'accord pour reprendre ce rôle. Je me rappelle qu'à cette époque, je voulais refaire un autre western, mais je ne trouvais pas le financement. Puis, c'est l'avant-première de L'Anquille au mal à la carabine. Je me retrouve assis entre Craig Hill et un producteur. Ce dernier regarde le film et applaudit à tout rompre. À la fin, il se tourne vers Craig Hill et lui tape sur l'épaule. Et il lui dit « Excellent, excellent. Dis-moi Craig, où est le réalisateur ?» Craig lui répond « Juste à côté de toi. » Il me tape alors sur l'épaule et dit « Est-ce que ça vous dirait de faire un film pour moi ?» Et voilà. Le dernier jour de la colère allait pouvoir voir le jour. En fait, c'est drôle parce qu'on va pouvoir parler des 2 films hein, là aujourd'hui dans l'émission. Alors, L'Anquille, l'homme à la carabine donc, est désormais disponible chez Frenesi Édition. Et qu'est-ce que ça raconte ? Alors, l'histoire est assez simple. Hein. Lui, c'est un L'Anquille, c'est interprété par Craig Hill. Alors, Craig Hill, bon, c'est un peu le bas qui blesse dans le film. C'est pas un super acteur. C'est un acteur assez limité. Il fera des trucs sympas dans sa carrière après, mais là, il fait un peu une sorte de sous-Terrence Hill, quoi, un peu beau gosse, un beau regard, un peu goguenard, mais en fait, c'est pas vraiment le point fort du film. Disons que ses ennemis sont de bien meilleurs acteurs dans le film, parce qu'il y a une distribution de ouf hein, dans ce film, on va y revenir. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on a ce L'Anquille. Alors, l'homme à la carabine, c'est pas pour rien, parce qu'il a... Ça, c'est une super idée du film. Il a une carabine avec une lunette de visée. comme ça, ce qui permet de varier les valeurs de plan. Enfin, on en reparlera, c'est assez intelligent de la part de Tonino Valéry. Et lui, en fait, ce Lanky Fellow, donc, en gros, c'est un chasseur de primes, et le film débute, il tue une bande hors-la-loi menée par l'inène arabe Fernando Sancho. Alors, en 66, Fernando Sancho ne collectionne pas encore les rôles de bandits mexicains. Après, il va les collectionner pendant très longtemps. Hein. Il va beaucoup faire ça. D'ailleurs, on va longtemps croire qu'il est le méchant principal du film, sauf qu'au bout d'une demi-heure, même pas une demi-heure, au bout de 20 minutes, il est mort. Il se fait flinguer. Voilà. Et en fait, Lanky Fellow va être engagé par un riche propriétaire de mine pour escorter un transport d'or. Et c'est là que son ennemi juré à Lanky, hein, Gus Kennebec, qui est interprété par l'excellent George Martin, acteur hispanique, un très bon acteur, prévoit de s'emparer de ce chargement d'or, ce qui va permettre à Lanky d'affronter son pire ennemi. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a toute une galerie de personnages, on va y revenir, on est typique du western italien. Déjà, ce qui frappe, alors c'est le travail, parce que quand on voit la seule copie qui circulait, cette vieille VHS américaine, effectuée par les équipes du laboratoire TCS, hein, puisque dès le pré-générique, avec ce superbe plan en scope, alors le scope, c'est la marque de Valéry, hein. Valéry, c'est un vrai maître du plan large du cinémascope. Alors là-dessus, je pense qu'il est fait partie des tout meilleurs, hein, pour moi parmi les 10 meilleurs. Hein, c'est vraiment même par rapport aux Américains, je trouve qu'il est très très fort pour utiliser le scope. Et là, on a un superbe pré-générique. On voit Craig Hill qui se promène sur fond de soleil couchant. L'image est sublime. Et là, on voit tout le travail du labo TCS, parce que quand on connaît la copie d'origine qui circule, là, on voit un film d'une beauté picturale absolument saisissante. Et là, on voit tout de suite la maîtrise du scope par Tonino Valéry, qui n'en est qu'à son premier western. Alors, Tonino Valéry, c'est même pas 20 films, je crois que c'est 17 films, téléfilms compris, enfin, c'est toute petite carrière en termes de mise en scène. Bon, il était scénariste, il a fait plein de choses. Hein. Mais par contre, le genre où il va être le meilleur, c'est le western. Indubitablement. C'est vraiment un très grand réalisateur de western. D'ailleurs, Jean-François Giray le rappelle dans le bonus. Il y a un petit bonus avec Jean-François Giray qui est vraiment intéressant, parce que Giray revient un peu sur ce que je vous disais à l'instant, sur cet étrange mystère qui entoure ce film. Pourquoi ce film était complètement disparu alors qu'il a connu une sortie au cinéma en France? Il n'y a visiblement pas de problème particulier avec des ayants droit. Enfin, voilà, c'est très étrange, parce que ce film n'ait jamais été édité ni en VHS, ni en DVD, ni en Blu-ray, dans aucun pays. Hein, quasiment, je vous dis, à part cette VHS américaine, il n'existait aucune copie du film sur un support numérique. Donc là, grâce au travail de TCS et de Frenesi, c'est réparé. Écoutez Culture Brune. Valéry, lui, il a cette maîtrise du scope et il glisse des détails dans les coins de l'écran, tout ça. Enfin, il a une grande maîtrise du scope. D'ailleurs, il s'amuse avec les formats dans le film, puisque dans ce film, il y a plusieurs protagonistes. Il y a un petit vieux, qui est ce fameux personnage du petit vieux qu'on voit dans plein de westerns, ce petit vieux un peu goguenard, un peu drôle, qu'on va retrouver, c'est une constante, hein, qu'on retrouve aussi dans Le Dernier Jour de la Colère, qu'on va retrouver jusqu'à... jusqu'à Mon Nom et Personne, qui est le dernier grand western que va faire Valéry, le dernier western qui va filmer, quoi, hein, qui en plus, c'est la conclusion du western italien, quelque part, ce film de Valéry. Hein. Et on va retrouver ce personnage dans tous ses films, et là, ce personnage, il utilise un miroir pour pouvoir anticiper les situations, donner des coups de main à Craig Hill, voilà. Et ça permet... à Valéry d'expérimenter des plans biscornus, tordus, de mettre du 4 tiers à l'intérieur du scope, et va s'ajouter à cela l'utilisation de la lunette, en fait, qui permet à Valéry de filmer des plans circulaires, en fait, où toute l'image est noircie, sauf ce qu'on voit à travers le viseur de la lunette du pistolet de Craig Hill, donc de Lanky Fellow, parce qu'en fait... ce qui lui permet de prendre de l'avance souvent sur ses ennemis, c'est qu'il peut se placer en aplomb et pouvoir les flinguer, bah, tel un sniper en vérité, parce qu'avec sa lunette longue visée, il peut tirer de loin. Ça ne l'empêche pas d'être très bon au pistolet aussi. Hein, voilà. Et il va s'amuser comme ça avec les formats d'image. Il va s'amuser aussi, Tonino Valéry, avec le personnage de Lanky. En faisant un personnage quasi mutique, qui parle très peu. C'est seulement au bout de 16 minutes qu'on entend Lanky, alors qu'on l'a déjà vu beaucoup à l'écran, hein, qu'on entend Lanky parler pour la première fois. Voilà. Donc c'est seulement au bout de 16 minutes. Hein, il faut attendre avant d'entendre parler. Et après, il va y avoir toute une succession, une sorte de gigantesque jeu du chat et de la souris entre Lanky et ses ennemis. Hein, aussi il va y avoir un jeu qui est quelque chose qu'on va retrouver dans un autre film, un jeu à base d'uniformes de l'armée, qui est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans un autre film de Tonino Valéry, qui s'appelle Une raison pour vivre, une raison pour mourir, La Horde des salopards, où il va faire porter à des soldats sudistes des répliques d'uniformes nazis, ce qui avait fait un gros scandale aux États-Unis à l'époque, pour ceux qui avaient vu le film. Et lui, c'était volontaire, c'était un engagement politique, hein, de la part de Tonino Valéry de faire ça. Et là, en fait, on a cette même thématique de personnages qui vont usurper, en fait, c'est différent, il ne leur fait pas porter un uniforme nazi, hein, mais qui vont usurper l'uniforme pour pouvoir tendre un piège. Et là, en l'occurrence, pour pouvoir dévaliser une banque. Hein, en l'occurrence, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver, en fait, dans les autres films de Valéry, qui sont dans ce film-là. Alors, évidemment, comme dans tout bon western italien, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein, et Lanky Fellow saura démêler le vrai du faux. Mais est-ce que nous, spectateurs, on a bien démêlé le vrai du faux? Est-ce que nous-mêmes avons bien cerné le personnage de Lanky Fellow? Le doute subsiste jusqu'au final, en fait. Hein, il y a une super idée, mais en fait, on ne le savait pas. Mais Danny Trejo et puis Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, ils n'ont rien inventé. Machete, il est dans Lanky, l'homme à la carabine. Super idée, il y a vraiment un personnage qui s'appelle Machete, qui tue à la machette, qui a d'ailleurs une tête d'asiatique, c'est assez étrange dans ce western. Et il y a plein d'idées comme ça dans le film qui me font penser que c'est... Alors, bien sûr, c'est pas le western le plus abouti de Tonino Valéry, mais on sent en germe un mec qui a beaucoup de talent pour un film écrit en 4 jours. Hein, voilà, il explique comment il l'a fait. Un acteur qu'il a dû trouver sur le tas parce que son acteur principal n'était pas là. Donc, il a dû improviser pas mal de choses au jour le jour. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout le dernier tiers du film où il y a toute une partie, à un moment, dans une ville silencieuse où il y a ils essayent de faire évader le fameux Machete. Et il y a une sorte d'assaut silencieux qui est mené. Moi, j'adore, avant qu'il y ait des explosions de dynamite, mais il y a une sorte d'assaut silencieux qui est mené. Et là, on voit tout de suite la maîtrise de l'espace, du cadre, qui est celle de Valéry. Et ce qui est intéressant, et là, je m'inscris en faux par rapport à pas mal de... pour moi, de gens qui ont critiqué le cinéma de Valéry, en disant ouais c'est un sous Léon, c'est la 600. Je suis pas du tout, mais pas du tout d'accord. Dès ce film, on voit que Tonino Valéry, alors il s'inscrit effectivement dans la filiation de Léon de par son héros qui est très inspiré évidemment de l'homme sans nom, de Léoné, c'est clair. Par contre, ce qui est assez clair, c'est que dans le style visuel du film, dans sa maîtrise du scope, Valéry, il est plus du côté, en fait, du western américain, j'ai envie de dire classique, je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais en tout cas du typique du western américain dans sa grande maîtrise du scope. Il y a un zoom dans tout le film, un seul zoom dans tout le film. C'est pas spécialement sa marque de fabrique, il y a quelques gros plans, tout ça, mais... Lui, il préfère le scope, il préfère les plans larges, il préfère travailler sur l'espace. Donc moi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis, il y a évidemment un duel final. Alors un duel final avec une très belle idée. Une idée qui tourne autour d'échanger les armes des personnes qui font ce duel, qui permet en fait à Valéry de faire un mouvement de caméra qui est assez singulier, qu'on voit très rarement dans les duels, en fait. Ce qui fait que ce duel devient une sorte de duel inversé, où les armes de l'un deviennent les armes de l'autre. Et c'est une super idée de mise en scène. Et puis, bon, on découvre au final que Lanky, il est largement aussi bon au pistolet qu'au fusil avec viseur, parce qu'en plus, la scène est assez gore, en plus, hein, pour un western de cette époque. Donc moi, je m'inscris complètement en fait dans la continuité de ce que peut dire Jean-François Giray dans les bonus, hein, donc de Lanky, l'homme à la carabine, édité par Frenesi. C'est que effectivement, alors signalé aussi dans les bonus, il y a une énorme galerie de photos et d'affiches, et que nos amis de Frenesi, TCS Vidéo, là, ils sont tellement obsédés par l'idée de fournir un beau produit, que même la bande-annonce qu'ils fournissent est une bande-annonce restaurée. C'est assez rare pour le souligner quand même. Moi, je m'inscris complètement dans ce que dit Jean-François Giray. C'est-à-dire que ce film, il est injustement méconnu. C'est certes pas le meilleur film de Valéry, mais il porte tellement en germe tous ces westerns à venir que pour moi, c'est un véritable événement de le voir aujourd'hui sortir sur Blu-ray. Donc moi, j'encourage toutes et tous, tous les cinéphiles, tous les amateurs de western italien, tous ceux qui aiment le cinéma de Tonino Valéry. Tonino Valéry, on va en reparler après, mais Mon nom est personne, Texas, Le dernier jour de la colère, waouh, c'est énorme. En termes de carrière dans le western, c'est une raison pour vivre, une raison pour mourir, j'en ai parlé. C'est quasiment que des classiques du genre. Donc c'est quand même incroyable que jusqu'ici, aucun éditeur ne s'était penché là-dessus. Donc c'est quand même un vrai événement. Hein, en termes de sortie vidéo, que la sortie de ce Lanky, l'homme à la carabine.
Je suis moins enthousiaste que toi, Jérôme. Déjà parce que le western, généralement, c'est un genre qui me laisse à l'extérieur. C'est pas un mauvais film, mais c'est juste que l'expérience que j'en ai, j'ai pris moins de plaisir que toi. Là où, simplement, c'est vrai qu'on a des plans qui sont variés, celui du viseur, celui... des miroirs, mais je trouve que celui du viseur, il réutilise à 3-4 moments, que la première fois on a compris, que la deuxième fois c'est des plans qui sont rapides, juste pour dire qu'il a un viseur, il ne sert plus à grand chose. En fait, c'est des segments qui m'interrogent plus, qui me posent plus de questions, qu'il ne me fascine comme pour toi. Il y a un autre détail que je trouve étrange, c'est que le héros est illettré, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lire. C'est mis en avant à 2-3 reprises, mais ça ne sert pas à grand-chose, bizarrement. Moi, j'ai l'impression qu'il essaye de lui donner un défaut, mais qu'au final, ça ne lui sert pas à grand-chose. Par contre, c'est un film qui est intéressant parce qu'il est en boucle, c'est-à-dire qu'il se termine de la même façon dont il commence, donc on voit sur un plan arriver au tout début à cheval et que la fin, il repart de la même façon et on comprend que c'est un mercenaire qui passe sa vie à faire ça et qui continuera ainsi de suite. Au final, je trouve qu'il essaye de... développer des situations complexes qu'il a du mal, et c'est normal, c'est son premier film, des situations qui sont pour le coup quand même très cool, notamment au tout début lorsqu'ils annoncent que la banque va être braquée par des personnes qui sont passées pour des soldats, que les soldats se mettent en place, qui rentrent dans la banque, que finalement on se dit mais ils ont rien prévu et qu'au dernier moment on se rend compte que toutes les personnes qui travaillent dans la banque, y compris dans le bâtiment en face, qui font semblant de repeindre, font partie de la police. Il y a plusieurs détails qui sont très cool, il y a plusieurs idées qui sont très cool, mais pour moi, il manque quelque chose. Je sais pas, peut-être un rite. Après, c'est un premier film, donc c'est normal qu'il ait des défauts, mais comme je dis, je suis moins enthousiaste que toi, même si je trouve qu'il est, que pour un premier film, il est quand même épatant.
Moi, je trouve que c'est un film qui a plein d'idées, en fait. C'est d'ailleurs que le film... cette idée de faire un héros analphabète, il est plus malin que les autres, il est analphabète. Moi, je trouve que en cela, c'est une idée qui suffit à elle-même, parce qu'il est plus malin que tout le monde, en fait. Et il est cynique, évidemment. On se refait pas, c'est du western italien. Et puis, moi, j'adore le casting du film. Franco Ressel et sa gueule de pleutre, de félon, voilà, qui est parfait hein, dans le rôle de sa vie. Piero Luli, évidemment. Radar Asimov aussi dans les. Enfin voilà, et puis il y a la photo de Stelvio Massi, c'est un bon directeur de la photo. Vous savez que je suis plus partagé sur ses qualités de metteur en scène, mais là la photo est superbe. Enfin le film est très beau. Et puis il y a les décors de Carlo Simi. Enfin les décors brillent de mille feux. C'est-à-dire que c'est pas sale comme dans plein de films italiens. On a des décors assez rutilants, je trouve, très colorés. Je pense aussi qu'il y a un gros boulot de TCS vidéo pour rendre à l'image des décors d'une grande beauté. Mais non, moi je trouve que c'est un film déroutant, en fait, parce que c'est un film assez imprévisible. Moi, il y a toujours des surprises, en fait. Ce film, on va de surprise en surprise. Je veux pas vous vendre un film qui serait un chef-d'œuvre et puis qu'on aurait oublié dans les cartons. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est franchement une excellente série B. Toi, tu me dis le coup du viseur. Bah oui, mais le coup du viseur, en fait, ça permet surtout, c'est comme le coup du miroir, ça permet en fait à... Ça donne un aspect, il le dit Jean-François Giray dans les bonus, un aspect scopophile, un aspect voyeuriste qui est assez étrange, en fait, qui confère au personnage un aspect assez effrayant, en vérité, quoi, hein, parce que il y a un petit côté pervers chez ce mec hein, qui regarde, qui laisse d'autres personnes se faire tuer pour que ses proies prennent de la valeur. C'est pas un type sympathique, en vérité, ce héros. Parce qu'en fait, l'homme sans nom, par exemple, chez Léoné, il est sympathique. Le personnage de Clint Eastwood, en fait, il est sympa. C'est pas un type recommandable, on n'aimerait pas l'avoir comme ami, mais il est moins ambigu, moi, je trouve, que ce Lanky. Enfin, voilà, après, toute proportion gardée, évidemment, les films de Léoné sont... C'est autre chose. Mais, en tout cas, pour une poignée de dollars, c'est meilleur que Lanky l'homme à la carabine. Voilà. Même si je trouve que pour une poignée de dollars, a aussi des défauts. Mais non, moi, je trouve que c'est... Puis c'est un film intéressant dans le sens où il annonce, en fait, tout ce qui est à venir chez Tonino Valéry. Alors pour ça, évidemment, il faut avoir vu les autres films de Valéry. Mais c'est, du coup, c'est vachement intéressant. C'est toujours intéressant de voir le premier film d'un type qui va enquiller toute une série et... Dans le pire des cas, seront excellents. Dans le meilleur des cas, parce qu'il va faire des trucs assez incroyables. Hein. Enfin, une jeune fille nommée Julien sur l'étude sur le genre, qui est un truc dont on parle absolument pas à l'époque. Parce qu'il va pas faire que des westerns. Hein. Il va faire du polar. Il va faire. C'est un sacré personnage avec en plus des propos politiques très forts. Je le rappelais tout à l'heure pour une raison pour vivre, une raison pour mourir. Enfin voilà. Et puis moi, j'adore le personnage de Machete. Enfin, c'est une super idée, franchement. Je pense qu'en fait, Tarantino l'a vu, hein, pour qu'il y ait Machete qui arrive plus tard comme ça, parce que c'est le même personnage, hein, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, il n'y a pas débat. Hein. Mais en tout cas, Lanky l'homme à la carabine, donc nous, vous le recommande vivement, parce que c'est franchement une sacrée découverte. Et puis, il faut soutenir les petits éditeurs qui nous sortent des pépites comme ça, parce que là, si vous ne les soutenez pas quand ils sortent un film qu'on attend de voir depuis des dizaines d'années, dans une qualité telle que celle-là, moi, je ne comprends plus rien. Quoi. Ou alors, je vire ma cutie et puis je ne suis plus cinéphile. Quoi. Voilà, donc ça s'appelle Lanky l'homme à la carabine. C'est de Tonino Valéry et c'est disponible chez Frenesi.
vous écoutez Culture Prohibée spécial western. On va quitter Frenesy, on va aller chez Artus Film. On va vous parler d'un autre film de Tonino Valéry, qui est le deuxième film, en vérité, de Tonino Valéry, qui vient juste après L'Anquille, l'homme à la carabine, qui est Le dernier jour de la colère. Alors, sur un scénario d'Ernesto Gastaldi, qu'on connaît plus pour ses scénarios de Giallo, mais qui est un très bon scénariste, et qui va nous raconter une histoire assez extraordinaire. Alors déjà... Alors ce film-là, il est sorti en 68 en France, mais il a été fait juste un an après L'Anquille, l'homme à la carabine. Il est de 67, il est sorti en Italie et en Allemagne en 67. Et Le dernier jour de la colère, ça y est, c'est le premier grand film de Tonino Valéry, vraiment. Là, on tient déjà un petit classique du genre, tout de suite, hein, dès son début de carrière, où en plus, distribution de dingue. Voilà, puisque les deux personnages principaux, Giuliano Gemma et Lee Van Cleef. Moi, j'adore hein, Giuliano Gemma. Je suis fan de Giuliano Gemma. J'ai toujours été fan de Giuliano Gemma. Et là, Giuliano Gemma, il fait... je tiens à souligner aussi qu'Artus Film sort la version d'1h55. Moi, je n'avais jamais vu une version aussi longue de ce film. Il manquait presque une demi-heure dans la version qu'on avait vue jusqu'ici, quand même, en VHS. Donc là, c'est top. Hein. Bon, bien sûr, il y avait eu la version DVD qui était complète, mais... Là, c'est du Blu-ray, le master est superbe, donc voilà, je tenais à le souligner. Et là, l'histoire est simple, Giuliano Gemma, c'est Scott, c'est le fils d'une prostituée, et c'est clairement le souffre-douleur de la population. D'ailleurs, il ramasse les excréments en fait, de la population, il vide les latrines, c'est son boulot. Le seul personnage qui est sympa avec lui, c'est un petit vieux un peu fantasque, original, qui est le même petit vieux que dans L'Anquille, l'homme à la carabine, en vérité. Hein. Et puis, un jour, il y a Talby, le pistolero, qui arrive en ville, Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, voilà. Un plan de cinéma, tu mets Lee Van Cleef, t'as un plan de cinéma, tu le mets juste dans l'écran, il est là, ça fait un plan de cinéma, avec sa gueule impayable. Et puis, qui est un tueur impitoyable, et qui va prendre sous son aile ce jeune garçon. Et ce jeune garçon, qui est une sorte de petit ange innocent, quelque part, hein, il va se découvrir un peu à la manière, dans notre western, par exemple, de Carlo Lizzani, qui s'appelle Requiescant in Pace. On va découvrir très vite qu'en fait, c'est un Giuliano Gemma, c'est un... Il a une dextérité incroyable au revolver, en fait, et... Il tire plus vite que son ombre, un peu à l'image d'un certain Lucky, Luc de son nom, je crois. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se nouer. Ça, c'est une thématique très forte, qu'il n'y avait pas dans L'Anquille, mais qui est très présente dans une grande partie, en tout cas, des films de Tonino Valéry, qu'on va retrouver, par exemple, dans Mon nom et personne. C'est cette relation père-fils ou mentor-élève. Voilà. Et là, en fait... Ce western va devenir un western freudien, puisqu'à un moment, il va falloir tuer le père. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va nous amener à ça? Quelles vont être les motivations des personnages? Comment tout cela va arriver? Et donc, Valéry nous donne là à voir un western oedipien, magnifiquement filmé en scope. Il y a des détails qui se nichent à tous les coins de l'écran. C'est incroyable. Je vous le disais tout à l'heure, hein, mais c'est le réel qu'on peut pas, c'est le réel qu'on peut pas recadrer. Voilà. Lui, tu le recadres pas, c'est pas possible. Et puis il va faire comme dans L'Anquille, l'homme à la carabine, parce qu'il pourrait aller chercher Morricone. Hein. C'est l'assistant de Léon. Il a Lee Van Cleef, il a Gastaldi au scénario, il a Giuliano Gemma qui est une superstar hein, en Italie. Il pourrait aller chercher Morricone et il va chercher Riz Ortolani comme il avait été chercher Nico Fidenco pour son précédent film qui avait, c'est la BO de L'Anquille, on n'en a pas parlé, elle est particulière aussi et elle ressemble pas au BO de Morricone, on est aux prémices là, du western italien hein. Elle ressemble pas au BO de Morricone et celle d'Ortolani, elle ne ressemble pas non plus au BO de Morricone et en fait, d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Tonino Valéry, en tout cas à ce moment-là de sa carrière, c'est qu'en fait, il n'utilise pas tant que ça la musique.
n'y a pas tant que ça de la musique dans ces films. C'est assez étonnant. La musique, c'est pour l'action, uniquement. Donc, c'est assez étonnant. Et, bon, moi, vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce film qui a même un côté assez poignant. Hein. Je trouve que Giuliano Gemma est magnifique. Moi, j'adore cet amour des déclassés, des personnages qui sont des moins que rien et qui sont, en fait, des rebuts de la société auxquels que Tonino Valéry transforme en héros. Ce qui va faire... toute sa carrière, en vérité. Hein. Une raison pour vivre, une raison pour mourir. C'est l'histoire d'un régiment de bons à rien qui deviennent des héros. Hein. Voilà, hein, c'est...
Quand ils meurent pas.
Oui, oui, non, mais... je veux dire, c'est ça, l'histoire de... Et la mort des héros, ce film-là, c'est en fait les prémices de Mon nom est personne. Mon nom est personne, pour en avoir discuté avec Valérie... qui est vraiment un film de Valéry, en fait. Hein, même, parce que toutes les thématiques développées dedans sont des thématiques qui sont déjà dans les films de Valéry avant. Alors, Valéry nous dit, oui, effectivement, on était hors terme. Sergio Leone a tourné la scène où, comment dire, la scène de la fête foraine, là. Le grand plan séquence. Oh, c'est vrai qu'il est magnifique, ce plan séquence, hein, voilà, faut le dire. Mais ça, c'est Leone qui l'a fait. Mais le reste, c'est Valéry. Et la mort du héros, c'est quelque chose... La mort du père... La mort du mentor, c'est quelque chose qui va revenir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que Mon nom est personne ? C'est la fin de l'Ouest mythique, qui est remplacé par des bouffons. Le personnage de Terence Hill, c'est un bouffon. Voilà. Et là, on a déjà ça en filigrane. C'est-à-dire qu'on a ce personnage qui est le moins que rien de la ville, et qui va, au contact de cet homme impitoyable, devenir... quelqu'un de respecté. Mais il ne veut pas devenir impitoyable. C'est ça qui fait la force du film. Et donc se pose la question, effectivement, de la mort du héros. Sachant que dans le western italien, le héros est aussi un anti-héros. Lee Van Cleef pourrait être considéré comme un héros pendant une grande partie du film. Jusqu'à temps que ça bascule. Voilà. Donc, parce qu'il pourrait être vu comme un redresseur de tort. Après, parce qu'il rend quand même... comment dire, il rend son humanité à ce garçon. Il le remet à la place dans la société, qui est par la loi du plus fort. Voilà. Donc moi, je trouve ça très, très intéressant. C'est jamais manichéen, hein, chez Valéry, et le dernier jour de la colère, j'aime beaucoup. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que je trouve que c'est un excellent film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, il fera encore mieux par la suite. Je pense que son plus grand film, moi, c'est Texas, qui est disponible chez Artus Film aussi, avec Mon nom et personne. Mais celui-là, il porte en germe beaucoup de choses.
Alors, à nouveau, les westerns et moi, ça fait deux. Mais je trouve Le dernier jour de la colère incroyable. Je crois que c'est l'effet Giuliano Gemma, parce que la dernière fois que j'ai dit qu'il y avait un western que j'adorais, c'était Les longs jours de la violence, où il joue dedans. Mais la dernière fois qu'on avait parlé, j'avais expliqué, vu que c'était une réécriture du Comte de Monte Cristo, c'est peut-être à cause de ça, alors que là, pas du tout. Je trouve le film extrêmement bien, justement, qu'on commence avec Scott, finalement, qui est le rôle de Giuliano Gemma. Et comme tu l'as dit, c'est le souffre de douleur de la ville. Le film, au début, a un petit côté comédie en soi, notamment quand Talby part à cheval et que derrière, il y a Scott qui arrive avec son âne qui cabotine au fur et à mesure. Et plus ça avance, plus on se retrouve avec des discussions qui vont être tendues. Les dialogues sont tendus à la perfection. Ils arrivent à rendre toute la tension qu'il y a. À un moment, je me suis dit qu'on partait un peu sur un buddy movie, parce qu'ils sont tous les deux, ils le forment un tout petit peu, il y a des moments qui sont drôles, et au fur et à mesure, tous les deux sont unis finalement face à la corruption de la ville. Et une fois qu'on arrive au milieu du vide, Talby a quasiment gagné, c'est-à-dire qu'il gère quasiment une grande partie de la ville. Scott et son bras droit, ils arrivent à régler des problèmes. C'est le moment où Scott commence à tourner et se rendre compte qu'être pistolero, c'était son rêve, mais que ça implique, comme tu l'as dit, Jérôme, indirectement, de perdre son humanité. Et là, on arrive dans la deuxième partie du film où les tensions se créent, ça devient de plus en plus tendu. Il y a aussi beaucoup de moments que je trouve assez imprévisibles, notamment un moment où un tueur à gages est engagé pour tuer Talby, qui va lui sauver la vie pour augmenter la prime afin de l'abattre derrière, avec toute une scène de course à cheval. Là, Enfin, quand on parlait de L'Enquille, tu disais que c'était un film imprévisible. Là, avec Le Dernier Jour de la Colère, je le vois. Et en fait, la différence, c'est que L'Enquille s'est fait en 4 jours. Le Dernier Jour de la Colère, il a eu plus de temps pour se poser et mettre en place son image. Et le film progresse jusqu'à la fin où l'affrontement entre Livan Cliff et Juliano Gemma arrive à son comble. Notamment Juliano Gemma qui va commencer à quasiment s'en prendre un peu à toute la ville pour pouvoir atteindre... Livan Cliff, et à chaque fois qu'il va tuer quelqu'un, il va rappeler une leçon que Livan Cliff lui a appris.
Alors, pour rappel, Les Longeurs de la Vengeance, c'est aussi disponible chez Artus Film, qui a décidément un catalogue en termes de western italien qui est assez extraordinaire. Pour rappel aussi, on peut trouver ces films sur le site des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, qui coproduit cette émission avec Radio Graphite. Countries that know only the springtime and you green fields with your setting of hay. No Ringo with his angel face and the woman who was waiting for his return. Écoutez Culture Prohibée. Rivers, you know how is the story, and his laughing, 'twas a presage of death. Ringo had an angel face, but whenever
on va rester chez Artus Film. Alors, on vous a parlé donc de deux films de notre ami Tonino Valeri, L'Enquille, l'homme à la carabine, donc qui est disponible chez Frenesi, son premier film chez Frenesi Édition. Le deuxième film de Tonino Valeri, Le Dernier Jour de la Colère, qui a été fait en 67 et qui lui est disponible chez Artus Film. On va rester chez Artus Film avec Giuliano Gemma pour un film de 65 qui s'appelle Un pistolet pour Ringo. Alors, on avait déjà parlé du retour de Ringo, qui est également écrit et réalisé par Duccio Tessari, mais qui n'est pas vraiment une vraie suite, en fait, si ce n'est de partager le même acteur principal, hein, mais qui n'est pas vraiment une suite de ce Un pistolet pour Ringo. Un pistolet pour Ringo, qui est un film dont la BO... Alors là, c'est du Morricone, et il y a une chanson culte, hein, qui est d'ailleurs reprise, hein, répétée plusieurs fois, puisqu'elle est écoutée par un des personnages principaux du film, dans Une affaire d'État, hein, le film qu'a tiré Éric Valette d'un livre de Dominique Manotti. Et chanson vraiment culte, personnellement j'adore, hein, la chanson de Ringo, voilà, c'est un côté suranné, mais moi ça me plaît beaucoup. Et bon, là c'est assez simple, hein, y a un hold-up dans une banque, il y a des bandits mexicains, leur chef c'est Sancho, et ils vont se réfugier dans une hacienda. Et ils vont tenir les occupants en otage, et les notables de la ville vont devoir faire appel à Ringo, qui à ce moment-là est sous les verrous, pour les délivrer et régler leur compte aux bandits. Et Ringo va devoir user de ruse pour gagner la confiance de Sancho. Alors, parce qu'il va en fait s'infiltrer dans la bande de Sancho et puis tout faire péter de l'intérieur, notre ami Giuliano Gemma. Alors là, on est clairement sur quelque chose avec... c'est excellent. Les deux Ringo sont excellents. Le deuxième est un film très sombre.
et qui est une tragédie en fait, hein, le deuxième. Le premier est un film très fun en fait, voilà. Alors dès le début, parce qu'en fait Ringo c'est une sorte de c'est visage d'ange, c'est son surnom, c'est vrai que Giuliano Gemma a un visage très juvénile qui l'a gardé quasiment toute sa vie, hein, ce visage juvénile. En fait, c'est le tueur le plus rapide de l'Ouest. Bon, voilà, c'est le flingueur le plus rapide de l'Ouest. Donc, évidemment, chose assez étrange, hein, mais à chaque fois dans les westerns, quand il y a le flingueur le plus rapide de l'Ouest, tout le monde veut le tuer pour prouver qu'il est plus rapide que le mec le plus rapide. Pour qu'il perde, évidemment, parce que c'est quand même l'autre le plus rapide. Vous m'avez suivi ? Voilà. Donc, et là, c'est très drôle, parce qu'au début, il a flingué un type, et puis tout le monde lui dit « Fais gaffe, Ringo, t'as flingué le frère de machin, ils vont venir te trouver. » Et puis, évidemment, ils vont le trouver. Sauf que là où Tessari s'amuse... D'ailleurs, le film est assez drôle, hein, parce que le film commence par deux mecs qui rentrent de chaque côté... Dans un beau scope, hein, c'est pareil. De chaque côté de l'écran, on croit qu'ils vont se flinguer et ils se disent juste bonjour et se souhaitent bonne journée. C'est assez marrant, en fait. On se dit, putain, ça va flinguer d'entrée de jeu. Ben non, c'est voilà. Et là, les types vont rechercher Ringo. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Ringo ? Ben, il est en train de jouer à la marelle avec des mômes. Il est en train de jouer à la marelle, tout simplement. Et il dit au môme, voilà, allez faire un petit tour, il va falloir que je m'occupe d'un petit truc. Voilà. Bon, ça dure deux secondes. Hein. Il flinque les trois mecs en deux temps, trois mouvements. Ils n'ont pas le temps de réagir. Voilà, c'est Ringo, quoi, voilà. Et en attendant de percevoir sa prime pour avoir tué tous ces méchants, bah, comme il vient de tuer des types, en attendant que le juge décide, il est mis en tôle. Et puis là aussi, il y a un personnage un peu de petit vieux qui a un peu ces philosophes de comptoir, les barrels philosophes, ces philosophes un peu alcooliques, ces cow-boys un peu alcooliques et qui philosophent tout le temps sur la vie, sur le sens de la vie et tout ça, qu'on retrouve beaucoup dans les films de John Ford. Et là, il y en a un peu un qui a un adjoint du shérif, qui l'aime bien en fait, puis ils sont assez potes et tout. Et puis ça va se finir qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre à l'évidence, d'autant plus que... Eh bien, l'hacienda qui est pris, où ils prennent tout le personnel en otage, des méchants mexicains, c'est une hacienda qui appartient au père de la fiancée du shérif. Et la fiancée du shérif, elle vit sur place. Donc, quelle solution, si ce n'est que sortir Ringo de prison et l'envoyer pour une mission en sous-marin, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et dans lequel il va devoir aussi communiquer avec le shérif et tout pour pouvoir... débarrasser la ville de ces ignobles bandits mexicains menés par Fernando Sancho, qui faisait donc le bandit mexicain dans Long Kill Homme à la carabine. Et là, il est particulièrement cruel, hein, parce qu'il n'y a pas du tout, alors là, il n'y a pas du tout de réflexe de classe, hein. Il s'amuse à faire de la chasse à l'homme avec les Mexicains qui sont pourtant des employés qu'on pourrait dire réduits en esclavage, peut-être par le grand propriétaire terrien, même si c'est pas ce qui est dit dans le film. Hein. Mais en vérité, quand même, il pourrait faire preuve d'un peu de solidarité avec ses frères mexicains, penses-tu ? Rien à foutre. Hein. Il les torture, il les flingue, il prend les femmes comme il a envie de prendre les femmes. Voilà. D'ailleurs, les personnages féminins sont assez chouettes parce que Lorella De Luca, qui fait la fille du grand propriétaire, elle va un peu tomber amoureuse de Ringo, tandis que le grand propriétaire, il va un peu tomber amoureux de la petite copine du bandit mexicain, qui est jouée par l'excellente Nieves Navarro, qui a joué dans un paquet de Giallo, qui est une actrice fort sympathique. Et ça donne un film pétillant, un film plein d'action, un film très rythmé, plein de fantaisie. On se demande toujours quel stratagème va mettre en place Giuliano Gemma, parce qu'on croit toujours qu'il va se faire prendre et il se fait jamais prendre. Et moi, je trouve qu'il y a un plan qui résume très bien tout l'esprit du film. C'est quand Giuliano Gemma arrive au ranch, à l'hacienda, pour justement se faire embaucher par la bande. Et on oublie toujours que Giuliano Gemma était un formidable cascadeur. C'est un cavalier formidable et croyez-moi, j'en ai vu quelques-uns, et lui, je peux vous dire qu'il fait du cheval à la perfection. Et là, il fait une manœuvre pour descendre du cheval. Tout de suite, ça place le film dans l'ambiance, c'est-à-dire qu'il descend comme on descend d'un vélo. Sauf que le cheval continue de trotter, et lui, il marche en même temps que le cheval. Il galope, hein, plutôt le cheval. C'est assez spectaculaire. Et c'est un petit frimeur, ce Giuliano Gemma, il savait tout faire. Et le film, hein, donc, s'appelle Un pistolet pour Ringo. Il est sorti chez Artus Film. Et c'est un indispensable du western italien. C'est un vrai petit classique du genre qui a connu un succès fou lors de sa sortie. Yeah, well, I don't know Chileans, but I know others like him. Half Indian, half white,
never know who they're gonna shoot.
Lo traje de México. Dicen que puede oler a un indio a kilómetros.
There are many things said about you. But I haven't seen anything yet.
Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial western.
Ain't a lieutenant supposed to have his own unit?
When there's discipline, one good man is worth more than 10 badly trained.
Look at this enormous land. Three men. Don't it seem absurd?
On va faire un bond dans le temps avec Thomas. On va aller au Chili. On va être en 2023. On va parler d'un film de Felipe Galvez qui s'appelle Les Colons et qui est un western également.
On change complètement de tonalité là. C'est beaucoup moins fun que les films dont vous avez parlé auparavant, chers camarades. Les Colons, c'est raconte l'équipée de trois cavaliers qui partent à la conquête d'une vaste propriété. Accompagnant un soldat britannique et un mercenaire américain, Segundo, tireur d'élite métisse, se rend compte que leur véritable mission est de supprimer la population indigène. Alors c'est un western si on veut. Moi on me l'a vendu comme un western, j'étais très content d'aller voir un western. Mais j'étais assez déçu, je trouve que la mise en scène elle est assez statique. Je trouve la mise en scène assez statique et surtout... je trouve que les personnages... Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé le film. Je me suis terriblement ennuyé. Je trouve que le film, je trouve que la mise en scène est assez prétentieuse, en fait. Et que le scénario, l'écriture, les personnages, j'y parle comme dans un salon littéraire. Et ça, moi, j'y arrive pas, quoi. Y a deux parties dans le film. Il y a cette partie, je vais éliminer les Indiens. Et une autre partie où j'étais déjà sorti du film. Hein, une partie, de toute façon, il bavarde beaucoup dans le film. Mais la dernière partie, il bavarde encore plus, où les questions de politique, de magouille, etc. Moi, le film m'a vite perdu. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est un film prétentieux. La mise en scène est prétentieuse. Je trouve que c'est un film qui fait des manières. J'aime pas du tout.
Eh ben moi je suis pas d'accord avec toi. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas où t'as trouvé que ce personnage, Segundo, est pas bavard du tout. Il parle quasiment pas. Donc
oui, mais les autres, oui.
Oui, mais on s'en fout parce que le personnage qui nous intéresse c'est Segundo. Et justement la dernière partie, c'est la meilleure partie du film pour moi. Voilà, c'est. Je trouve que le film est d'une beauté picturale incroyable. Je trouve que la photo est sublime. Alors la copie sortie chez Blackout là, elle rend bien hommage à la beauté du film. Je trouve que le travail sur la photo est vraiment superbe. Alors effectivement, le film a un côté tableau. Hein, c'est-à-dire que il y a une beauté plastique inhérente au film qui fait qu'on voit des tableaux. Par contre, ce qui nous est montré est absolument pas du tout romantique. C'est très violent, c'est très dur. C'est absolument pas. C'est même pas tout public d'ailleurs comme film. Hein. On voit des choses assez horribles dans le film. Hein. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film parce que. Alors, le but du film, c'est de dénoncer en fait le comportement des colons. On le voit bien. Mais il y a un personnage de salaud qui est vraiment un incroyable salaud. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un salaud aussi méchant dans un film. Il est très très méchant, comme dirait l'autre. Voilà. Tout est méchanceté chez lui. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous montre en fait la déshumanisation, la banalisation du mal. C'est quelque chose qui est vraiment. À un moment, il y a un mec qui se fait arracher un bras, on continue, c'est normal, c'est rien. Même, je crois qu'il y a des personnages qui disent c'est rien. Et je trouve que le film. Démontre en fait des petits hommes. Ces colons, c'est des petits hommes en fait. Ils font des démonstrations de force, mais en fait, le personnage le plus fort, c'est celui de Segundo. Et même, je dirais même plus loin, c'est sa femme sa compagne qu'on découvre à la toute fin du film, dans la dernière partie du film. Et enfin bon, moi j'ai beaucoup aimé le film, hein, voilà, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant. J'ai trouvé... bon, c'est vrai que c'est pas un film speed, hein, ça on est d'accord. C'est un auteur qui fait un western, alors on le prend comme on veut, mais par exemple je préfère largement ça à un film comme Les Frères Sisters de Jacques Audiard que j'ai détesté. Bon, parce que Jacques Audiard dit qu'il n'aimait pas le western avant de faire un western. Pour là, il vient de faire une comédie musicale, il dit qu'il n'aimait pas trop la comédie musicale. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, le film rencontre un fort écho critique. Mais en tout cas, j'avais détesté, dans le genre western moderne, j'avais détesté Les Frères Sisters. Mais ça, j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup la plastique du film et j'aime beaucoup ces personnages de Segundo, en fait. Je trouve que l'acteur en impose, vraiment.
Dans un genre différent que Les Frères Sisters, que je n'aime pas non plus, hein, moi je trouve que le film il regarde le genre de haut. C'est un film poseur.
Ouais, bah, moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve pas que le film. Je trouve que le film regarde pas le genre de haut. Je trouve qu'en fait, le film est un. Le western, c'est un cadre en fait, pour raconter autre chose, en vérité quoi.
Et non, mais d'accord, mais
c'est,
bon.
C'est en ce sens-là que. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le film. De toute façon, on sera pas d'accord. Hein. Je crois non. Que chacun. Les auditrices et auditeurs se feront leur opinion. Moi, je les invite à voir ce film. Si d'habitude, vous aimez les mêmes films que Thomas, bah, écoutez, je vous invite quand même à le voir. Et si vous aimez les mêmes films que moi, je vous invite à le voir. Ça s'appelle Les Colons. C'est de Felipe Galvez. C'est disponible chez Blackout. Et puis, bah, les amis, rendez-vous à bientôt pour d'autres duels au soleil. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Ni. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.